Merci à Jacques Rémy qui a demandé à tout le monde de se rapprocher. Du coup, il n'y a pas besoin du micro. Et on est tous là, bien concentrés. Ce matin, je parlais d'un sujet qui me tient à cœur et j'ai appelé c'est l'exhortation à un cœur nouveau. Alors, je vais emprunter ce procédé à Karl, qui le fait au début de chacune de ses exhortations, c'est-à-dire poser une question brise-glace, une question qui est un peu évidente. Qui a envie de voir le Seigneur? Je savais que tout le monde ne se lèverait pas forcément la main. Est-ce que quelqu'un dans cette salle n'a pas envie de voir le Seigneur? Non. Okay. Moi, personnellement, j'ai envie de voir le Seigneur face à face. Et c'est une promesse très connue, un verset qui est très connu dans le serment sur la montagne. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est une sacrée bénédiction pour ceux qui ont le cœur pur, n'est-ce pas? Maintenant, si je pose une nouvelle question, qui pense que sur la base de cette promesse, il verra Dieu? Qui pense voir Dieu sur la base de cette promesse? Okay. Je pense que honnêtement, il est moins facile de lever la main après cette question. Alors, une autre question se pose pour moi. Si je n'ai pas le cœur pur, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour le purifier? Qu'est-ce que je mets en place pour changer cet état de fait? Alors, je vais partager quelques pensées pêle-mêle sur ce sujet dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'un cœur pur? Le mot cœur est employé plus de 1000 fois dans la parole. Le cœur est le centre de l'homme, l'origine de sa vie spirituelle. Les choix du cœur déterminent si l'on va demeurer dans la vérité du Seigneur ou alors s'en détourner. Il y a le choix de la pureté ou le choix de la corruption. Ce que l'on a au fond de soi, seul Dieu le connaît. Ce que l'on a dans le cœur, seul Dieu le connaît. Pierre l'évoque en 1 Pierre, chapitre 3, au verset 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors le contexte de ce passage s'adresse originellement aux femmes. Mais croyez-vous une seconde que seules les femmes doivent se parer d'ornements intérieurs, de pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible? Moi, je ne le pense pas. Le cœur représente ce que nous sommes dans notre fort intérieur. C'est le siège de nos motivations, de nos désirs, de nos sentiments. On peut cacher au monde ce qu'il s'y trouve, mais notre Seigneur y lit comme dans un livre ouvert. La pureté, contrairement à une blague filée que l'on a faite cette semaine avec la famille Guillot, ce n'est pas forcément ce qui est blanc, mais c'est ce qui n'est pas contaminé, ce qui n'est pas frelaté, ce qui n'est pas mélangé. Sur le plan spirituel, ça se rapporte à ce qui n'est pas souillé, à ce qui est propre. Je reviens alors à cette promesse du sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Autrement dit, heureux ceux qui sont propres à l'intérieur, avec des sentiments, des désirs et des mobiles qui sont purs, qui ne sont pas mélangés, mais faits d'un seul bloc. Celui qui a le cœur pur sert son Seigneur, non pas parce qu'il a peur du jugement ou de la mort, ou alors par habitude, ou pour avoir une activité dans la semaine, mais il le sert sans hypocrisie, simplement parce qu'il aime son Dieu. C'est notre plus grand commandement en Luc chapitre 10. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Alors pourquoi un cœur pur ? Alors c'est une courte phrase que vous lisez chaque semaine sur les petits papiers, peut-être sans trop y prêter attention, mais vous lisez chaque semaine « Préparez vos cœurs à rendre un culte au Seigneur ». Et cette petite phrase est en couleur jaune. Quelle est l'implication de cet appel ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Personnellement, pendant une longue période de l'année dernière, en 2016, cette courte phrase m'a accusé. Préparez vos cœurs. Au départ, lorsque j'ai mis cette phrase, je pensais à pensez bien à éteindre vos portables. Quand vous rentrez, surtout si vous êtes en retard, pensez à ceux qui sont arrivés à l'heure et qui sont déjà, eux, dans le culte. Je pensais aussi, comme pour Daniel, ne bavardez pas, vous aurez tout le temps après. Je pensais aussi à prenez un livre de chant. Je pensais aussi à n'oubliez pas votre Bible en arrivant. Mais tout cela n'agit que sur des aspects extérieurs de la condition de mon cœur. D'autres questions ont alors émergé pour moi. Lorsque je rentre dans cette salle, mon cœur est-il prêt à recevoir quelque chose ? Suis-je prêt à être exhorté ? Suis-je prêt à pratiquer l'amour, comme l'a plusieurs fois prêché Jean-Simon ces dernières semaines ? Suis-je prêt à pardonner ? Suis-je prêt à être transformé ? Désolé si ça a l'air d'auto-promo pour les petits papiers, mais ça peut faire une différence, comme cela a eu sur moi, ou peut-être sur d'autres. En rentrant ici, pour rendre un culte et non pas pour donner un culte, notre cœur doit être pur, débarrassé de ce qui l'encombre, débarrassé de ce qui le souille, de ce que l'on ne peut pas mélanger avec la pureté de notre Dieu. Notre Seigneur ne considère-t-il pas comme un culte raisonnable que de donner nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait ? Saint qui veut dire mis à part, donc pur. Être bien habillé n'a aucune espèce d'importance. Et on l'a vu ce matin, on peut même servir le repas du Seigneur en jogging. Mais avec un esprit bien disposé, cela fait la différence. En 1 Samuel chapitre 16, le prophète est chez Isaïe pour choisir un nouveau roi au peuple d'Israël. En voyant l'aîné Éliab, le prophète est sûr de son coup. Il est sûr que c'est lui le prochain roi. Et pourtant, le Seigneur lui enseigne une chose importante. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Notre Dieu ne regarde pas à un supposé charisme, une personnalité formidable, un physique avantageux ou alors à des dons incroyables, mais il regarde à notre cœur, qui est la source de notre motivation et la source de nos désirs. Nous avons plusieurs appels à la pureté. En Proverbe 22, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres, a le roi pour ami. En psaume 24, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. En Hébreux chapitre 12, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous ne pouvons donc être en présence du Seigneur et être nous-mêmes impurs. Attention, je ne prêche pas que les œuvres. Je ne prêche pas la pénitence, la dureté de la vie dans le Seigneur ou ces choses-là. Simplement, si Dieu, dans son infinie patience, bonté, grâce et miséricorde, a envoyé son Fils unique pour qu'il meure à notre place, nous qui étions pécheurs et voués à la destruction totale, et qu'il prenne sur lui nos fautes alors que lui était pur. Non, je prêche aussi un Dieu de justice qui ne tolère pas d'être en présence du péché, qui ne tolère pas d'être en présence de la souillure. J'aime beaucoup cette formule qui dit « Le Seigneur vous appelle à venir comme vous êtes. Nous sommes appelés à venir au Seigneur comme nous sommes. » Mais simplement, nous ne pouvons pas rester dans le même état. Nous ne pouvons pas repartir dans le même état. Nous sommes appelés à un changement radical. C'est l'esprit de ce chant que j'aime particulièrement dans le psaume 51, avec cet appel de David au Seigneur de tout changer en lui. C'est après que David soit allé vers Bathsheba, la femme d'Uri, et qu'il ait commis un adultère avec elle, Dieu se repent. Et c'est le verset du jour. Ô Dieu, c'est en psaume 51, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Et là, c'est le verset. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Pourtant, ce même David, qui a commis un meurtre en vue de commettre un adultère, donc double péché, et qui demande à son Seigneur de créer en lui un cœur pur, est le même dont on dit qu'il a un cœur selon Dieu. David avait un cœur selon Dieu. Comment cela est-il possible ? On lit en Actes chapitre 13, « Puis, ayant rejeté Saül, Dieu leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et pourtant, on sait qu'il a tué. Le Seigneur savait que David ferait ses actes ignobles. Et pourtant, le nom de David est resté à la postérité comme le nom d'un roi qui a agi selon le cœur de Dieu. Ses fautes, une blessure profonde dans sa relation avec Dieu, n'a pourtant pas changé la nature de son cœur de serviteur pour le Seigneur. Alors, quelles étaient les caractéristiques du cœur de David ? Dans un premier temps, il avait un cœur reconnaissant. David avait un cœur d'adorateur. Tous les psaumes écrits par David sont autant de témoignages de ce cœur qui était profondément plein de gratitude pour son Seigneur. En psaume chapitre 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et on peut vraiment lire des centaines et des centaines de psaumes qui parle de la reconnaissance de David pour son Seigneur. Il avait un cœur soumis et patient. Alors qu'il avait reçu l'onction pour régner, le temps de son règne n'était pas encore venu. Alors qu'il était le roi légitime, il a quand même servi Saül, alors que Dieu n'était plus avec Saül. Il a eu même plusieurs opportunités de le tuer, mais David est resté patient et il a attendu que celui dont il dépendait son autorité, Dieu, lui indique le moment qu'il avait choisi. En 1 Samuel 24, « Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné, et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » Et un peu plus loin, « L'Éternel jugera entre toi et moi, il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. » David s'est soumis au choix du Seigneur. David avait un cœur humble. On voit qu'il aurait pu prendre le trône en tuant Saül, mais il ne l'a pas fait. Et on a cette exhortation en 1 Pierre 5. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il avait aussi un cœur zélé. Sur le front, voyant que Goliath blasphémait contre l'Éternel, il s'est élevé contre lui, car il ne supportait pas que ce Philistin déshonore Dieu en parole. Toujours en 1 Samuel 17, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter ainsi l'armée du Dieu vivant? On verra par la suite que David va tuer ce Philistin qui déshonore Dieu en parole. Dernière caractéristique, il avait un cœur plein de foi. Si David n'a pas hésité à se lever pour combattre le Philistin, c'est qu'il n'avait aucun doute que son Seigneur était avec lui dans la bataille. Il était à ses côtés. Et avant même de l'affronter, il lui dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » N'ayant ni l'âge, ni la condition physique, ni l'armure, Dieu se savait en sécurité avec l'Éternel des armées à ses côtés. Voilà un cœur selon Dieu. David avait un cœur au service des autres, au service de son Seigneur, et non au service de ses propres désirs. Et pourtant, on voit qu'il a péché, lui aussi, gravement. Mais dans cette épreuve pour sa foi, dans ce terrible moment, il s'est repenti et a appelé son Seigneur à créer en lui un cœur pur, à renouveler en lui un esprit bien disposé dans le service aux autres. Alors au début, j'ai demandé ce qu'on pouvait mettre en place pour avoir un cœur pur. Dans un premier temps, c'est de se demander de quoi notre cœur est rempli. Qu'est-ce qui occupe tout notre temps? Un frère récemment m'a confié qu'il était très occupé par un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est pas grand-chose, ce n'est pas un péché. Mais pourtant, il s'est rendu compte que jouer à ce jeu si longtemps, ça occupait ses pensées, il ne pensait qu'à ça. Et j'ai connu cette période aussi, un jeu qui s'appelait Football Manager. Je pouvais y jouer pendant 10-12 heures dans une même journée. Jean-Simon lève la main aussi. Je ne voulais pas l'accuser, mais je sais qu'il a connu ça aussi. Pendant 10-12 heures, ne pensait qu'à ça. Qu'est-ce qui occupe notre temps? De quoi on remplit notre cœur. Jésus encourage ses disciples à garder leur cœur. On le lit en Marc chapitre 14. Et Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Notre Seigneur nous encourage pour remplir notre cœur à veiller et prier, à méditer sa parole. Parce que sans lui, on ne peut pas résister à la tentation. En Matthieu chapitre 15, nous avons aussi cet enseignement de Jésus. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Et j'aurais pu être avec les pharisiens à ce moment-là, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il dit : Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et un peu plus loin, au verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche, va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Je répète, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tout cela provient de notre cœur. Alors de quoi notre cœur est-il rempli ? De quoi l'avons-nous rempli ? Est-ce de la parole ? Est-ce de prière ? Ou alors est-ce que nous avons rempli notre cœur de notre quotidien qui n'est pas forcément reluisant ? Rappelons-nous que notre Seigneur nous a dit qu'il regarde à notre cœur et non pas ce qui frappe les yeux. En Proverbes chapitre 4, nous avons cet encouragement et gardons-le. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est une parole de sagesse que je répète. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, pour terminer, je ne ferai pas le coup des bonnes résolutions pour la nouvelle année, car malheureusement, elles durent rarement au-delà de la fin du mois de janvier. Personnellement, j'ai des bonnes résolutions comme perdre du poids, m'entraîner dur pour un événement sportif pour cette année. Mais si j'ai une prière que je veux renouveler pour moi chaque jour, et pour chacun d'entre vous, c'est celle de David, crée un cœur pur en nous, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Crée un cœur pur en moi et renouvelle en moi un esprit bien disposé.